Soufflez votre oiseau, merci. Avec les chips.
Ma vie joue un manque de chat.
Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious.
Eric Dobliker, numéro 3 français, et vous, vous êtes un pur produit, un peu self-tennisman, puisque il n'existait pas toutes ces structures quand vous avez débuté. Comment êtes-vous devenu alors ce que vous êtes aujourd'hui ?
Bien, je crois que c'est surtout à force de travail. Maintenant, j'ai moi eu la chance d'appartenir à un club qui a quand même des structures assez importantes, qui a su un peu m'entourer, me conseiller, et je crois que j'ai, grâce à ce club, j'ai quand même pu devenir et me hisser à une place assez honorable dans le tennis français.
Le numéro 1 mondial, l'Espagnol, Rafael
Nadal. Hello, c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. On vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. On vous le dit à chaque fois, mais ça compte énormément pour nous. En plus, tu peux être instantanément une légende dans notre cœur en nous mettant un commentaire sympa et 5 étoiles sur Apple Podcasts. C'est ce qui nous permet de faire connaître la chaîne et d'avoir des invités de renom. Pour cette deuxième partie, avec notre figure emblématique du tennis français, Eric Dobliker, on parle de son capitanat d'équipe de France de Coupe Davis en 88, opportunité qui s'est présentée un peu tôt à son goût, mais qui a notamment permis de rapprocher Yannick et Riton Lecomte en vue du sacre de 91. On aborde évidemment son expérience de 8 ans avec Richard Gasquet, qu'il a récupéré à 17 ans et éduqué pour devenir joueur de tennis pro, en l'emmenant notamment au Masters de Shanghai à l'époque et en terminant l'année 2007 à la 7ème place mondiale. Eric nous parle des coachs qui ont façonné les 3 meilleurs joueurs du monde, que sont Rafa, Roger et Novak, à savoir Tony Nadal, Séverin Lutti et Marin Vajda. Puis les questions de fin ont permis de mettre en lumière le récit d'un homme marqué par les épreuves de la vie et qui a en partie fait son chemin grâce à l'écriture qu'il pratique depuis toujours et au livre qu'il a fini par publier, Un impossible deuil. On terminera encore une fois avec cette notion de résilience, à savoir la capacité à rebondir après des drames ou plus simplement se servir de l'expérience vécue suite à des échecs. Assez parlé de mon côté, place à cette seconde partie avec Eric Dobliker. Bonne découverte et bonne écoute à tous. En 88, tu es nommé capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de l'époque et ce que tu en as vécu, ce que tu en as tiré ?
C'est un peu... les mecs veulent plus de Jean-Paul Loth. Ils respectent Jean-Paul, mais ils veulent plus de Jean-Paul Loth. Et puis, tu as une réunion en Australie où in fine, après plusieurs noms, Philippe Châtrier me demande si je veux pas être capitaine. Les joueurs sont là, ils disent oui, ça serait pas mal, Eric. Je pense que j'ai été nommé capitaine un peu tôt. Voilà, je devais avoir... j'avais 37, 38. Sans doute un tout petit peu tôt. Parce que j'étais encore à entraîner ces mecs-là. J'étais sans doute un peu trop encore entraîneur. Et que pour être capitaine, il faut un tout petit peu de recul. Et il faut avoir, à mon avis, bien évidemment, entraîné. Mais un tout petit peu de recul. Maintenant, capitaine, c'est encore autre chose. C'est compliqué parce que les joueurs sont compliqués. C'était en plus une époque où, moi, je récupérais Yannick, Henri, qui s'entendaient pas très bien à cette époque-là. Mais on n'a pas eu les résultats que je pense on aurait pu avoir avec une équipe où il y avait 4 mecs dans les 10 meilleurs joueurs du monde qui s'entendaient pas très, très bien. On a réussi un peu avec AGF à ressouder un peu le groupe, mais pas suffisamment.
La sensation la plus forte que tu as eue sur le banc pendant ton mandat, c'était laquelle?
Quand il n'y a plus de problème, il reste un problème. En gros, si tu veux, les satisfactions, bien sûr que t'as les satisfactions de la victoire, mais celles-là, tu les connais tout au long de l'année. Je crois que c'est d'essayer à te faire, mais c'est l'essence même de la réussite d'un groupe, à ce que ton groupe marche ensemble. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est assez compliqué et il faut que l'individualisme forcené que sont les joueurs de tennis arrive à se mettre au service d'une équipe, d'un groupe. Et que le capitaine, c'est la personne qui va réussir, ou en tous les cas, un des éléments qui va réussir à souder ce groupe. Ce qui n'est pas toujours non plus que le rôle du capitaine, parce que c'est les joueurs entre eux. Et s'il n'y a pas cet effort entre les joueurs entre eux, c'est « je t'aime pas », on s'aime, mais on se jalouse. Enfin, c'est les rapports inhérents, j'ai envie de dire, à chaque sportif, avec les égos des uns et des autres. C'est pas simple, mais c'est vachement enrichissant. Et puis quelque part, là encore, tu apprends, hein. Tu apprends de ce qui se passe, de la victoire, des défaites. J'aurais pu mieux faire, j'aurais dû faire ça. Et puis essayer à chaque fois que ça te sert pour la suite.
En 91, tu fais partie de la campagne victorieuse contre les États-Unis et tu dis que juste avant, tu as participé quand même à rapprocher Noah et Lecomte qui avaient des relations un peu tendues. À quel point tu penses que tu as, avec ton travail en amont de capitaine, participé à cette victoire de 91? Déjà en 91, tu as quel poste dans l'équipe et à quel point tu penses y avoir contribué?
En 91, je suis entraîneur. Je fais 88-89 comme capitaine. Après, je reviens entraîneur. J'entraîne Henri Lecomte. Ben, je pense que c'est à chaque fois sur les petits problèmes. Moi, je suis toujours entraîneur. J'étais proche de Fabrice, d'Henri, etc. Donc voilà, il y a toujours des tensions. C'est essayer de minimiser les tensions. C'est essayer de valoriser les joueurs. C'est essayer de leur dire, mais t'es capable de le faire avec Henri. C'est des choses qui marchent très bien. C'est de lui dire, mais tu peux, t'es capable. Et c'est vrai qu'il était capable. Le problème d'Henri, c'était son investissement quotidien et toute l'année. C'est un mec qui s'entraîne vachement bien, qui est capable de tous les efforts, mais pas de façon forcément régulière. Et à un moment donné, quand tu arrives à motiver Henri, il n'a pas de limite. Donc, il n'avait pas de limite. Et c'est, voilà, chacun avait son rôle. Je pense que le catalyseur, c'était Yannick. Et que chacun était à sa place, en fait, dans un groupe. Il faut que chacun soit à sa place. Il faut que l'entraîneur, il soit entraîneur. Il faut que le préparateur physique, il soit préparateur physique et le kiné. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on déborde. Voilà, débordons pas, restons à la place.
T'étais coach d'Henri pour sa finale de Roland 88?
Je sais plus si c'était avant, après, là, il faudrait que je regarde. Je sais plus trop. Tous les cas, j'étais proche d'Henri, c'est sûr. Et j'étais proche de Fabrice aussi. Et de Delette, parce que j'entraînais Delette. Butch, je sais. Si, j'entraînais Butch aussi en 96. Ça, c'est bien plus loin, c'est en 96. À Malmö, ça, j'étais son coach.
Comment tu t'es rapproché ensuite de Gasquet?
Gasquet, ça s'est fait naturellement. J'entraînais Grosjean et Clément. C'était les deux joueurs que j'entraînais. Puis à un moment donné, à l'époque, on disait qu'à 22 ans ou 23 ans, les mecs devaient se démerder. Donc, ils se sont démerdés. Donc, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Mais c'était au moment où Richard rencontrait des difficultés. Il avait 17 ans. Il y a eu des problèmes à Flushing, tout le truc. Là, alors, je sens sa raquette. Il était pas bien dans sa tête. Et puis, je sais pas comment c'est venu. Mais en fait, ils sont venus me demander si je voulais pas m'occuper de Richard. Peut-être son père, Richard. Et puis ça s'est fait naturellement et puis voilà, l'aventure a commencé.
Combien de temps vous avez fait ensemble?
On a dû faire jusqu'en 2000 avec des passages où on a arrêté. J'ai fait 2004 à 2011 avec un ou deux ans où j'étais plus quand il y a eu on a dû faire 7-8 ans, ouais, facile.
C'est ta plus belle expérience ta plus belle collaboration, j'imagine, non? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses avec le recul?
Avec le recul, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'il avait 17 ans, c'était le meilleur espoir, hein, le petit Mozart, le grand truc à la française. Mais voilà, il fallait l'amener à ce que lui ait une ambition par rapport à ses moyens. Voilà, c'est pas ça va venir comme ça. C'est l'ambition, c'est apprendre à mieux travailler, apprendre à avoir cette ambition et d'aller au bout de ses ambitions et à structurer tout ça. Voilà. Et Richard, il faut lui expliquer, il faut lui dire les choses. Et contrairement à ce qu'on a bien voulu dire, c'est que Richard est un mec qui est sans doute un des mecs qui s'entraîne le plus, qui s'entraînait bien. Mais dans sa tête, il fallait lui dire ou lui expliquer que c'était normal, qu'on n'était pas rôti ou qu'on montrait pas qu'on était rôti. On est tous fatigués quand on fait des efforts. Donc il y avait aussi un travail, je dirais, mental, d'approche par rapport à sa carrière, à sa vision et à ce qu'il devait montrer et pas montrer sur un cours.
Le plus gros regret de votre collaboration, ça restera quoi?
Je sais pas si j'ai des regrets. Moi, j'ai pas véritablement de regrets. Si je parle au point de vue résultat, je pense que Richard aurait pu avoir des meilleurs résultats dans les tournois du Grand Chelem. Il a fait une demi-finale dans les tournois du Grand Chelem. Je trouve que il avait le potentiel pour faire mieux. En tous les cas, les meilleurs résultats. Maintenant, il faut pas oublier qu'il y a trois joueurs qui sont, depuis que Richard a commencé, qui sont à la tête du classement mondial et qui sont indéfectibles, c'est Federer, Nadal, Djokovic. Donc, pour te laisser une place en demi, quand t'as Murray, etc., tu vois, il faut, c'est pas aussi simple que ça. C'est les seuls petits regrets que je peux avoir. Sinon, je pense qu'il a fait et il fait une carrière qui est plutôt une très, très bonne carrière.
Et le plus bel accomplissement ensemble, selon toi?
C'est chaque semaine. Hein. T'as les résultats, t'as la progression au classement, t'as le devenir et t'as aussi l'homme qui devient. Parce que quand, au départ, c'est pas simple. C'est un ado qui a 17 ans, qui s'exprime pas. Et aujourd'hui, il est assez à l'aise. Je pense que, mais c'est lui, hein, c'est pas moi. Je pense qu'il a progressé, que c'est un autre Gasquet, heureusement, parce qu'on grandit tous. Qu'il a évolué. Maintenant, à titre, moi, j'ai beaucoup aimé quand il s'est qualifié pour le Masters. Donc c'était il est en 2007, je crois, ou 2006, je sais plus, 2006 ou 2007, il se qualifie pour le Masters. Il a 20 ans et il termine 7e à la fin de l'année.
Pourquoi ça a si bien marché entre vous deux en tant qu'homme? Il y avait une vraie relation de confiance, vous compreniez plus qu'avec des autres. Enfin, qu'est-ce qui explique que vous soyez restés si longtemps ensemble?
Ça, il faudrait poser la question à Richard. Hein. C'est plus qu'à moi. Moi, ce que je crois simplement, c'est que il faut être à l'écoute, il faut l'écouter. Il faut. Tu peux le bousculer sans le bousculer. En fait, c'est il y a plusieurs relations dans les relations entre entraîneurs et joueurs. Il fait partie des joueurs qui a besoin d'être rassuré. C'est un peu le côté paternaliste, c'est un genre un peu père putatif que tu as dans les relations. Tu peux avoir des relations de copains, tu peux avoir des relations fraternelles, de censeurs, de proviseurs. Tu as toutes les relations qui s'ouvrent. Tu dois avoir par moment toutes ces relations entre un joueur et un entraîneur. Et lui, il avait, à mon sentiment en tous les cas, besoin de ce côté un peu rassurant, paternaliste, qui dit ben on va y aller, tu peux y aller, tu peux le faire, voilà. Et puis il y en a d'autres, t'as besoin de les bousculer, t'en as d'autres, t'as besoin au contraire d'être amical, etc., ou d'explications. Mais c'est plus à lui de répondre à ce genre de questions que moi.
Est-ce que tu peux nous dire les 2-3 joueurs que t'as eu avec lesquels tu t'es planté et des collaborations qui ont finalement rien donné ou pas grand chose?
J'en ai pas tellement, parce que même si t'as pas les résultats mirobolants, t'as des, je sais pas, j'ai toujours eu des très bons rapports avec les mecs. Non, j'ai pas un joueur dans tous ceux que j'ai entraîné là, tous ceux que je t'ai donné, parce que en fait ça s'est enchaîné. C'est Tulane, Benabiles, Santoro, Delette pendant 10 ans, Butch, Golmar, Clément, Grosjean, Gasquet. Tu vois, c'est sur une période de, et Lecomte, bien sûr, et Lecomte. Ça fait une période de 20 ans, 4 ans, 5 ans. Et parmi ceux-là, je peux pas dire qu'il y ait un joueur qui est pas où il y a eu un échec de rapport, un échec de résultat. Alors, je sais pas. Non, j'ai pas d'exemple. Je me suis dit tiens, alors peut-être que on aurait pu mieux faire, hein, avec des joueurs au niveau des résultats. Il aurait pu mieux faire, c'est pas le coach. Mais non, j'ai pas un sentiment de frustration avec tel ou tel joueur.
Du coup, t'as arrêté de coacher totalement après ta collaboration avec Richard?
Oui, après, en fait, oui, j'ai arrêté de coacher. Alors, de temps en temps, moi, je joue à Richard, de temps en temps, on fait des petits trucs, ou de temps en temps, il vient me demander des avis. Mais du jour où Arnaud Lagardère m'a demandé de prendre la direction du Lagardère Paris Racing, j'ai arrêté de coacher.
Ok. Juste pour conclure ta partie sur le coaching, tu dis que l'intervention d'un coach, toi, tu la juges à 5% sur le succès du joueur. Mais si on devait définir l'essence de ton coaching à Eric de Blicquer, ça serait quoi? Parce que j'ai l'impression que tu peux en inspirer plus d'un. Et si on voulait s'inspirer justement des succès que tu as pu avoir?
Encore une fois, ça, c'est les joueurs qui doivent répondre. Mais quand je dis 5%, il faut bien comprendre que oui, le coach reste une personne importante. Mais c'est quoi? C'est 4 heures, 5 heures de boulot par jour, et puis tu as 6 heures de discussion, etc. Tu as l'à côté qui fait partie du rôle du coach. Aujourd'hui, la véritable notion du vrai coach, c'est, pour moi, c'est quoi? C'est, prenons les meilleurs joueurs du monde, Federer, son coach, c'est Lutti, hein, tu peux te la raconter comme on veut. Ah, il va prendre des consultants, là, c'est le grand truc à la mode. On prend un deuxième entraîneur. Pourquoi? Parce que la parole… Bon, bref, très bien, parce qu'il y a un petit plus, très certainement, pour les tournois du Grand Chelem. Nadal, ça a été Tony Nadal. Et maintenant, c'est Moya qui fait un peu partie du même discours. Djokovic, on peut se le prendre comme on veut. C'est Vajda, ces coachs-là, c'est pas 5, 10, 15, c'est la pierre, tu vois, c'est le truc sur lequel tu peux t'appuyer quand les mecs ont des problèmes. Ils appellent qui quand Djokovic il va voir 2-3 mecs et que ça marche pas? Ils rappellent qui? Ils rappellent Vajda. C'est ça le socle. Alors je dis 5, ça peut être 10, peu importe. C'est pas le truc sur lequel tu peux t'appuyer et tu peux te retourner et tu te poses pas la question de savoir est-ce que je peux avoir confiance en lui. C'est ça le véritable rôle d'un coach. Parfois on a oublié. Moi quand je vois aujourd'hui à cette espèce de mode, dit tiens, je vais prendre deux coachs et puis il y en a un qui va voyager 15 jours avec moi puis un autre 15 jours avec moi. Bah oui, mais non. Voilà. Oui, mais non. Le mec, si t'as pas envie de faire tes 8 mois de l'année à faire le tour du monde, fais un autre métier. Mais voilà. Mais ça, c'est mon avis à moi. Mais fais un autre métier. Voilà.
Est-ce que t'as vécu des anecdotes sympas à raconter avec ces top 3, Djoko, Rafa et Roger?
Non. J'ai pas, tu vois, il y a plus le côté anecdotique qu'il pouvait y avoir il y a quelques années. À la limite, à notre époque, nous, on allait bouffer avec les mecs, on se racontait des conneries, c'était sympa. Non, là, aujourd'hui, c'est chacun dans son coin. En tous les cas, quand moi, je les croise ou je les croisais, il y a un respect de ma part vis-à-vis de ces mecs-là. Voilà, bonjour. Et qui sont toujours, d'ailleurs, toujours bien élevés. Et je pense que ces mecs-là ont fait progresser le tennis, le jeu, ont mis la barre du niveau du tennis au plus haut, et que c'est grâce à des mecs comme ça. Et tant mieux pour le tennis en général, parce que le jour où ils vont s'arrêter, ça sera moins… j'espère qu'il y aura d'autres mecs qui vont prendre leur place, mais ça sera pas simple d'avoir le tennis d'un Federer, d'un Nadal, d'un Djokovic. Et espérons qu'il y ait des joueurs qui arrivent à avoir ce niveau-là, ce charisme-là, cette aura-là pour notre sport.
Ensuite, donc, tu deviens directeur général du Lagardère Paris Racing. Ça consiste en quoi, ce métier, précisément?
Bah, tu deviens, si tu veux, le directeur général d'un club où il y a 13 000 membres et 180 salariés à gérer. Voilà, avec des budgets. Tu passes d'un statut où tu as dirigé, à la limite, des hommes d'un sport, etc., à un mini-chef d'entreprise qui doit diriger une PME, hein, avec un chiffre d'affaires, avec des résultats qu'on te demande, avec une gestion qui est différente, hein, parce que là, tu gères plus des joueurs de tennis, tu gères des salariés. Voilà. Je pense justement que le sport, ses challenges, les victoires, les défaites, les déceptions, tout ce que tu peux vivre, t'aide à appréhender, si tu veux, tout ce qui est déjà RH, relations humaines avec les gens que tu dois gérer en ce qui concerne l'entreprise. Et puis, tu as 13 000 membres. 13 000 membres qui sont des gens qui sont membres du club, d'un club que je connaissais, j'y suis né, et qui sont pas toujours faciles, et sur lesquels il faut délivrer ce qu'ils attendent, il faut communiquer, il faut pouvoir faire passer des messages, il faut expliquer, il faut le gérer, parce que quand il y avait des périodes, des travaux, les gérer, etc. Non, c'est compliqué, c'est difficile, c'est 12 heures par jour, avec souvent beaucoup plus de problèmes. Et après, tu te démerdes et puis ça s'est plutôt bien passé.
Quand tu parles de ce métier, tu dis compliqué, problème, 12 heures par jour. À ce moment de ta vie et après tout ce que tu as vécu, où est-ce que tu as trouvé où est-ce que tu as pris ton pied dans cette activité?
Quelque chose de nouveau. On revient toujours à la même chose, au challenge. T'as un challenge, t'as un truc, on te dit, est-ce que nous, on pense que t'es capable de le faire parce que tu connais bien le club, parce que tu y es né, etc. T'as un espèce de challenge. Oui, mais est-ce que je suis un gestionnaire? Bon, bref. Et puis, à un moment donné, tu relèves un gant, tu relèves un espèce de challenge et tu te dis, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Je vais essayer de m'entourer, de gens compétents, je vais essayer de pouvoir réussir à amener, en tous les cas, sur quand même des choses que tu connais, hein. J'ai un club, j'y suis né, mais et d'essayer de pouvoir amener des idées, parce que c'est mon club où je suis né, et d'essayer de faire passer tes messages. Et quelque part, bah, tu le prends comme, comme un nouveau challenge. Hein. C'est des challenges dans la vie qui sont similaires. Tu vas gagner ou tu vas perdre. Si tu perds, tu te feras virer, tu feras autre chose. Si tu gagnes, simplement, tu auras cette sensation du travail accompli et d'avoir été relevé un défi dans un domaine où c'est un peu moins ton domaine. Voilà, et tout ça, ça me paraît être quelque chose qui fait partie de l'adrénaline de ce que les sportifs ont envie de vivre. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je me suis construit dans ma vie d'homme. C'est comme ça que tu arrives à te construire en faisant des trucs sur lesquels, à la limite, est-ce que t'es fait, t'es pas fait, j'en sais rien. Est-ce que t'as envie, oui, sinon tu le fais pas. Et on revient toujours à la même chose. Est-ce que c'est pas caricatural de dire je vais bosser 12 heures par jour parce que c'est le week-end, parce que ça fait partie de ton adrénaline, de ton truc. Ton temps, tu le comptes pas quand t'as envie de réussir. Dans tous les cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça n'a rien à voir. C'est pas une vérité non plus.
Comment s'est passée la fin de cette expérience professionnelle et sur quoi t'as enchaîné après?
Bah après, à un moment donné, j'ai souhaité éventuellement prendre un peu de recul parce que 6 ou 7 ans, c'est quand même, c'est pas si évident. Donc j'ai dit, ça serait peut-être pas mal que je prenne ma retraite. Donc on a discuté. Ils m'ont demandé après ma retraite de rester 2-3 ans comme ambassadeur, auprès du club. Donc on a trouvé cet accord, et derrière je me suis dit qu'est-ce que je fais, quelque chose, rien. Et puis il s'est trouvé que j'ai à nouveau commenté sur Eurosport, j'ai donné des cours dans cette école, j'ai fait de la politique à la fédération où j'ai été élu au CST. Voilà, donner un peu de ton temps dans la fédération, ce qui me paraissait quelque chose de normal. Voilà, ça fait pas mal de choses en fait. Et à côté de ça, voilà, je suis consultant sur deux trois autres trucs. Donc t'as un tout petit peu plus de temps pour voir le temps s'égrener entre guillemets, mais toujours avec cette ces différentes choses qui t'anime.
Juste pour nous repréciser l'envergure du Paris Racing, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Tu nous as dit 13 500 membres. Est-ce que tu peux nous donner l'enveloppe globale annuelle, enfin le chiffre d'affaires, les conditions pour rentrer? C'est incroyable.
Aux alentours de 15-20 millions de chiffre d'affaires.
15-20 millions. Pour rentrer, il faut être parrainé.
Oui, il faut être parrainé. Ça, c'est un règlement. On ne veut pas donner de chiffres, si tu veux, parce que on ne les communique pas. Par contre, voilà, c'est une PME à gérer avec 13 500 membres, avec encore une fois des salariés. Et puis, tu essayes de faire un chiffre d'affaires qui correspond aux attentes. Tu fais toujours un budget prévisionnel. Tu regardes un petit peu la conjoncture. Tu as toujours des problèmes à régler. Alors, en ce moment, ils ne doivent pas forcément s'amuser avec le club qui est fermé, etc.
Ouais, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Quelle est ta définition de la richesse, Eric?
La richesse, c'est être bien entouré.
Ok. Si tu n'avais pas été joueur de tennis ou si tu n'avais pas évolué dans le tennis, tu aurais fait quoi?
Un sport, il faut qu'on ait des objectifs et essayer de gagner.
Justement, quelle est ta manière à toi de te fixer des objectifs chaque année?
Aujourd'hui, moins qu'hier, mais faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait encore plaisir.
Ouais. Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de chaque journée?
Être heureux, c'est compliqué. Tu peux être heureux une minute, tu peux être heureux 3 minutes. On peut pas dire qu'on est heureux ou pas heureux. Je pense que c'est des instants et des moments de vie, des moments où c'est assez compliqué. Mais je peux pas dire tiens, ça m'a rendu heureux ou pas heureux. Je crois qu'il y a tout un contexte, une vie. La vie est compliquée. Je sais pas. Je peux pas dire à la fin d'une journée tiens, je suis heureux parce que.
Qu'est-ce que tu fais pour essayer d'être une meilleure personne concrètement?
Là aussi, être une meilleure personne aux yeux de qui, aux yeux de quoi?
De toi. De toi. T'es proche.
Ouais, mais. Je pense que plus on vieillit, plus on avance dans l'âge, on se dit que c'est compliqué, plus on essaye de donner à son entourage, voilà.
Le plat que tu cuisines le mieux?
Je cuisine pas, donc c'est celui que je vais acheter à la grande surface.
Ah d'accord. Un livre qui a impacté ta vie?
Il y en a énormément parce que je dois lire 2 à 3 bouquins par semaine. il y a toute une époque où c'était Moravia, Buzzati, Camus, Sartre, Gide.
Ouais.
Et maintenant, je suis passé dans tout ce qui est... j'aime bien les Ken Follett, les Musso, les thrillers. C'est le dernier de Leila Slimani, le dernier de James Patterson,
ouais.
Grisham.
Ok. Un film découvert récemment ou un film un peu référence?
Ça dépend de la manière dont tu es. Si t'es euphorique, si t'as envie de rire, si t'as pas envie de rire. Je suis assez bon public. Et parfois, j'aime bien des films où tu réfléchis, d'autres moins. Je suis plus en ce moment dans les comédies. Ouais. Alors si je devais dire les comédies, ouais, je dirais Les Bronzés. Tiens, Les Bronzés, ça me fait toujours marrer.
Un bon classique.
Ouais.
Le concert le plus dingue auquel t'es assisté?
Je suis pas beaucoup au concert. Celui que j'ai vraiment aimé, c'est Springsteen au Parc des Princes.
Yes.
Le boss.
Le boss, comme on l'appelle.
Et...
Est-ce que tu médites?
Non, je médite pas, j'écris.
D'accord. Est-ce que ma question d'après, c'est la plus grosse période de doute de toute ta vie?
T'es toujours en doute.
Ouais.
Et heureusement.
Ouais. Mais bon, il y a des fois où on doute plus que d'autres, j'imagine.
Ouais, mais je pense que la part du doute, ça fait partie de ta vivacité intellectuelle. Si t'es sûr de toi, ok, très bien, mais je pense que tu dois avoir une part de doute qui te fait progresser.
Ouais. À quel point le livre que t'as pu écrire et sorti en 2013 a pu t'aider à avancer?
En fait, c'est à un moment donné que tu gardes beaucoup de choses, hein, et puis dans les métiers que j'ai fait, tu gardes la plupart tu travailles pour les autres, donc tu gardes le tout pour toi. Je pense qu'à un moment donné, tu as besoin de sans doute d'écrire, comme moi j'ai toujours beaucoup écrit, et voilà, et je me suis dit tiens, c'est peut-être un acte courageux que d'écrire sans vouloir à la limite donner autre que un témoignage, des choses à faire, il y a aucune. Mais je crois qu'à un moment donné, c'est sortir d'une espèce de réserve ou de timidité ou de voilà. Donc c'était plutôt un acte de courage que d'écrire et de le sortir.
C'est quoi ta routine d'écriture? T'écris à quel moment de la journée?
J'aime bien écrire le soir, donc. J'aime bien écrire sur pas mal de sujets. Alors là, quand je prépare des cours, par exemple, j'écris l'après-midi, là, en ce moment, j'ai le temps. Ou quand j'ai envie d'écrire quelque chose, ou j'en ferai peut-être un autre livre ou pas, j'aime bien écrire le soir.
Est-ce que l'apparition de ton livre t'a permis de faire des rencontres assez improbables? Est-ce que ça t'a permis de vivre des choses que tu n'aurais pas imaginées?
Il s'est trouvé que par le livre et des intermédiaires différents, j'ai pu rencontrer Boris Cyrulnik, qui est quelqu'un de référence sur la résilience. Donc ça, c'est des rencontres qui sont intéressantes. C'est des aspects en fait où tu es dans la résilience sans le savoir. Tu sais même pas ce que le mot veut dire à la base. Et ça fait partie effectivement de témoignages ou de rencontres qui sont forcément intéressantes. Et puis par la force des choses, j'ai rencontré des gens qui sont des gens comme Sarkozy, que j'aurais peut-être jamais rencontré. Hein.
Ouais. Agelauer m'en parlait justement de résilience pendant notre épisode ensemble. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot et en quoi il te parle?
La résilience, on en connaît tous à plus ou moins de degrés différents, mais la résilience, c'est l'échec, mais plus que l'échec, et puis à un moment donné, comment tu rebondis, comment tu repars, c'est cette part de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut absorber, qu'est-ce qu'on peut encaisser, jusqu'où on peut encaisser, et à quel moment, si tu veux, une fois que tu coules, parce que tu as été aspiré par des spirales justement négatives, tu as cette capacité à rebondir, à repartir et à te battre dans la vie avec des objectifs, avec ton entourage, avec des gens qui comptent. C'est la résilience, c'est cette force qui à un moment donné vont te dire stop, j'arrête de couler, d'être absorbé, et avec souvent des drames qui arrivent, parce qu'on parle de résilience souvent par rapport à des drames. Donc il faut connaître le drame pour se dire ah j'ai ce côté résilient où je suis capable. On peut aussi c'est coulé, hein, on peut être absorbé par tout ça. Donc la résilience, oui, c'est un mot un peu nouveau que les gens l'emploient de plus en plus. C'est pas l'employé qui est important, c'est d'arriver, si tu veux, à le vivre quand des périodes difficiles, tu traverses des périodes difficiles. Donc et à cette capacité à rebondir, à repartir.
Quels seraient les mots un peu rassurants que tu dirais au Eric de l'époque qui a vécu des choses, des moments compliqués à passer aujourd'hui avec ton recul?
Il faut les vivre. Il faut les vivre et il faut, rassurant. Tu peux pas rassurer, en fait, parce que, quelque part, les gens qui traversent ça, t'es marqué. Mais quelque part, tu vas t'accrocher, tu vas t'absorber, tu vas revivre des choses qui sont peut-être des deuxièmes vies, des troisièmes vies, qui sont sans doute très importantes, très qui ont le mérite d'être l'essence même de la vie. Ou alors tu te laisses mourir, mais quelque part. La vie, elle doit être vécue jusqu'au bout et avec cette envie. Voilà, il faut toujours avoir une envie. Moi, si j'avais pas eu l'envie que d'élever mon fils, l'envie d'avoir envie de continuer à faire mon métier, ben je serais plus là. Donc, ça fait partie de ça, quoi, de ce phénomène de la vie. La vie vaut le coup d'être vécue. Alors après, chacun l'apprécie comme on peut l'apprécier. Mais plus tu avances, plus tu as de problèmes, plus tu rencontres des difficultés. Parce que c'est ça, parce que les problèmes, les difficultés, ça peut être la maladie, ça peut être ce qui arrive, ça peut être un confinement. Bref, et encore par rapport. Mais tout ça, ça fait partie de l'essence même de la vie. Et il y a des moments où tu vas rebondir. C'est pour ça que tu peux pas dire « je suis heureux ». Ça veut dire quoi « je suis heureux » On est heureux. Non, il y a des moments où on est bien. Il y a des moments, il y a des instants, il y a des… mais tu peux… ça veut dire quoi « je suis heureux toute ma vie » Ouais, mais tant mieux. Non, mais il y a des moments où ça rigole moins.
Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien sortir de temps en temps?
Non, je sais pas… J'ai pas de citation, mais ce qui te tue pas te rend meilleur, forcément. Mais c'est quelque part ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que beaucoup de gens vivent. Parce que quelque part de tes échecs, de ce que tu as vécu, de tes drames, de la vie tout court, parce que la vie tout court, c'est un divorce, c'est un machin. Bon, oui, mais c'est difficile quand sur le coup. Et puis, à un moment donné, la vie reprend le dessus et il se passe autre chose. Et puis tu vas aimer, et puis tu peux aimer plusieurs fois dans ta vie. Enfin, bref, c'est pas moi qui vais raconter tout ça, mais c'est l'essence même de ce qui arrive à tout le monde.
Pourquoi est-ce que tu as accepté gentiment de faire cette interview?
Bon, pourquoi pas, surtout, il n'y a pas de raison de ne pas se raconter.
Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur cette chaîne de podcast avec laquelle on pourrait parler tennis et surtout que tu pourrais nous aider à avoir?
Qu'est-ce qu'il y a des choses à dire? Ça dépend, tout le monde a des choses à dire. Je sais pas, Santoro.
Santoro, on a eu.
Qu'est-ce qu'il y a des choses à dire? Plein de mecs.
Qu'est-ce qui te reste à accomplir, Eric?
Je sais pas, c'est de accomplir. Je sais pas accomplir. T'as toujours quelque chose à accomplir, à faire.
Qu'est-ce que t'as envie de faire jusqu'à la fin, quoi?
Jusqu'à la fin, continuer là. Ce que je fais, ça me va bien. Je pense que quel que soit, encore une fois, ce qui peut se passer, peser un petit peu sur ce qui peut se passer dans une fédération de tennis, parce que je crois qu'il y a des choses à faire, à essayer d'aider, d'accompagner. Je pense que ça serait pas plus mal que certains anciens joueurs puissent être dans la discussion, dans peu importe, hein, c'est dans le bénévolat, dans tout ce que tu veux. Je pense qu'il y a des choses qui sont qui seraient intéressantes, parce que je crois que il n'y a pas que la vision d'élus. Je pense que tout ça doit être partagé, et je pense que ça serait intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, on verra bien. Ouais. Et puis voilà, sinon j'ai pas des je continuais bien sûr à être consultant. J'aime bien ce que je fais en étant prof, hein, parce que tu t'adresses à des gamins de 20 ans, 22, 23 ans qui vont débuter leur vie professionnelle. Donc pouvoir leur, pas, ça serait prétentieux que de leur dire tu vas gagner un peu de temps, mais en tout cas leur donner quelques billes, ouais. Parce que c'est pas, la société d'aujourd'hui est plus compliquée que celle que nous on a connue à l'époque. À nos 20 ans et être bien sûr en famille, et surtout avoir la santé, hein, aujourd'hui c'est, ouais. À nos âges c'est le truc le plus important.
Voilà. Tu continues de faire du sport pour rester un peu en
je fais vélo et puis un peu de natation, puis voilà, hein, c'est pas, parce que c'est des sports, si tu veux, qui sont le moins contraignants physiquement pour moi.
Yes. Bah, un grand merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup.
Pas de problème.
À bientôt. Ciao.
Merci d'avoir écouté cet entretien avec Eric jusqu'au bout. Surtout, ne t'arrête pas en si bon chemin. Tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone. Le bouche à oreille fonctionne à merveille. Vous êtes 198 à nous avoir mis 5 étoiles sur Apple Podcast. Un petit effort si tu ne l'as pas encore fait. L'objectif est bien évidemment de passer la barre des 200 d'ici mardi prochain. Alors laisse parler ton cœur et viens nous mettre un rapide commentaire. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode. On te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation... Tac. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee, si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode, juste en dessous, dans la partie donc description, tu l'auras compris. Et pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr, t'as le lien juste en dessous dans la description. À nouveau, c'est cadeau, ça nous fait plaisir. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve mardi prochain, à très vite pour un nouveau contenu, ciao.